Savez-vous, quand je ne travaille pas, je vous jure que je ne sais pas du tout que je m'appelle Renette Loranaise. Je ne sais pas du tout ce que je suis. J'y pense pas du tout, mais alors, mais pas du nombre.
J'ai beaucoup chanté en arabe et c'est une musique qui m'a toujours beaucoup émue, qui m'a toujours beaucoup plu et qui continue toujours à me plaire et que j'écoute avec beaucoup, beaucoup de satisfaction.
Quand je chante avec mon âme, mon cœur et mon corps.
Touche, mami, touche, touche, mami, touche, 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 touche. Ya
Fari. Je n'ai jamais appris le chant.
La série musicale Zoé Svens.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de tous les portraits, ou plutôt de toutes les esquisses. Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale, bienvenue. Épisode de notre série Diva consacrée à ces femmes dont le statut, le rôle, l'influence dépassent la qualité. Quelle qualité ! La qualité seule de leur voix, de leur timbre, de leur musicalité. Reconnaissables entre toutes dans les pays ou dans les communautés qui les écoutent et qui les aiment, elles ont parfois moins de succès ou en tout cas moins de reconnaissance en France au sens large. Elles éblouissent évidemment par la qualité de leur timbre, mais aussi et surtout parce qu'elles incarnent, portent en elles l'histoire d'un pays, d'une lutte, qu'elles transforment même la société parce qu'elles chantent et parce qu'elles sont femmes. Et quelles femmes vous allez entendre aujourd'hui ? Les divas que nous allons vous présenter s'appellent Sheikha Rimiti, Fadela Dziria, Bedia Laral. Vous entendez sa voix ici, mais encore Souad Massi ou Renette Loranaise. Elles sont algériennes et leur capacité de création, leur indépendance, leur courage, leur humour aussi, sont à l'image d'un pays dont la tradition musicale est d'une richesse, disons-le, absolument ébouriffante. Impossible en une heure d'en faire le tour de la musique classique arabo-andalouse et ses déclinaisons régionales, ses dérivés populaires, le chabi à Alger, le majouz et le malouf à Constantine, le garnati à Tlemcen, qui ont enfanté notamment le raï, dans la chanson kabyle aussi. Le paysage musical algérien a été chanté, porté, parfois même inventée et développée par des femmes qui ont souvent lutté pour s'imposer, de l'époque de la colonisation aux années de plomb, et dont la présence et l'aura ont non seulement compté, mais qui ont véritablement réinventé ce patrimoine musical algérien. Le patrimoine d'un pays
dont elles ont parfois encouragé et parfois, disons-le franchement, subi les grands moments de son histoire récente. C'est une histoire algérienne, mais aussi franco-algérienne, car la plupart des femmes que vous entendrez aujourd'hui ont vécu ou vivent entre les deux pays. On ne parlera pas dans cette émission de la grande diva algérienne dont le statut a très largement dépassé celui de son pays et même de la région. C'est évidemment la grande Warda El Jazeria, Warda l'Algérienne, qui fera l'objet en temps voulu d'un portrait nécessaire et digne de son génie et de son influence, mais donc une émission consacrée à toutes celles qui, libres, fertiles, révoltées, son vent, sont si nombreuses que cette émission ne saurait être qu'une série de petites esquisses forcément subjectives et comme toujours non exhaustives mais pleines de révérence et d'admiration dans la série musicale sur France Culture.
آه والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والرأي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام لا يكون طايح ما هوش لولا تنسب هيا آه جاني مار بركاني وجاني مار بركاني دنا 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 وداني جاني مار جاني مار وجاني مار جاني مار جاني مار مت نقريش كل يوم جاني مار جاني مار جاني مار شي فيني
Incroyable Sheikha Rimiti pour ouvrir cette émission surnommée la mamie du rail. Personnalité incontournable, évidemment, non seulement en tant que femme, mais tout simplement en tant que pilier musical de l'Algérie. Sheikha Rimiti qui nous a quittés en 2006 à Paris, qui fut vraiment une de ces traits d'union et une de ces réinventions à la fois de la musique et de la figure féminine algérienne sur laquelle on reviendra très largement. Elle fait partie de ces femmes qui ont fait le trait d'union entre la tradition du chant rural algérien, qui est une grande partie de la source de ce qu'on entendra ici, et vers une forme de modernité, puisque c'est elle qui invente le raï. Et si ce genre-là triomphe ensuite à la fois en Algérie, mais aussi en France, si les Cheb Mami et Cheb Khaleb existent, c'est parce qu'elle a existé, elle, Sheikha Rimiti, analphabète, et qui a pourtant composé plus de 200 chansons, répertoires, réservoirs, dans lesquels tout le monde va se servir allègrement depuis. Sheikha Rimiti, on y reviendra évidemment, car elle est au cœur finalement de ce récit des femmes algériennes qui chantent et qui souvent s'imposent malgré la vie, malgré la difficulté, qui trouvent dans la musique à la fois la possibilité d'exister, d'être portée, de se sauver et de changer la société pour exister. Chez Rara Emiti, qui a beaucoup chanté, qui a à peu près tout chanté, comme elle l'expliquait dans une interview géniale donnée à France Culture, où elle est traduite par une voix d'homme, où elle évoque le choix de ses chansons et la diversité de son répertoire, avec une grande gourmandise, elle qui était une très bonne vivante amatrice de vin, de bonne chair, et chansons comme les légumes sublimes, appétissants et tous différents du marché.
Dans le métier que j'exerce, c'est comme dans un marché. Dans un marché, il y a des pommes, il y a des tomates, il y a des oignons. Donc, dans mon style de musique, c'est la même chose. Il faut que je chante tous les styles, aussi bien pour moi que pour les autres. Je chante pour la femme, il faut pas qu'elle désespère, il faut pas qu'elle laisse son foyer et aller souvent dans les cabarets, etc., etc. Mon métier m'oblige à chanter sur tout le monde et traiter tous les sujets, aussi bien en ce qui me concerne qu'en ce qui concerne les femmes qui vivent dans notre société.
Les femmes qui vivent dans notre société, chanter pour tous et pour tout le monde, c'est un peu ce que pourrait être finalement le long récit qu'on vous propose, car les femmes qui portent ces répertoires, les portraits de divas qu'on va vous présenter sont aussi divers et absolument alléchants tous les uns les autres. Ce grand marché de la musique algérienne et ces figures sublimes de femmes découlent toutes plus ou moins d'une source qui évidemment s'est mélangée. C'est celle de la musique arabo-andalouse qui est à peu près à la genèse de tous les styles qu'on découvre aujourd'hui, qui ensuite se sont transposés selon les régions de ce pays qui est immense, rappelons-le. La chanson kabyle qu'on évoquera bien sûr est encore un tout autre sujet. Et de ces formes classiques transposées en Algérie sont ensuite nées toute une série de répertoires beaucoup plus populaires. Mais à la source de tout cela, il y a cette grande tradition de la musique classique. Musique classique qui était évidemment, tout au long des siècles, réservée amplement aux hommes. On n'entendra pas la voix ici de Yamna Bent El Hadj El Mahdi, surnommée Malema Yamna, une chanteuse qui naît au milieu du 19e siècle et la première à interpréter le répertoire andalou qui était totalement réservé aux hommes. Peu d'enregistrements, pas d'enregistrements de cette grande pionnière, mais qui, parce qu'elle a osé et parce qu'elle a pu recevoir cette tradition à la fois poétique extrêmement complexe qui repose sur l'usage de mode, on vous en a déjà beaucoup parlé ici, est un genre évidemment extrêmement difficile à interpréter puisque la tradition est uniquement orale et qu'elle est d'une complexité complètement folle. De nos jours, dans notre temps, celle qui porte ce répertoire et qui a été justement la première femme à avoir enregistré deux séries de noubats, puisque ce genre c'est la nouba, c'est l'incroyable Beja Rahal, une immense diva de la musique classique arabo-andalouse, qui explique justement d'où vient le répertoire qu'elle interprète.
Quand on parle de la musique arabo-andalouse, on parle de l'époque où les Arabes étaient en Andalousie, donc jusqu'à la chute de Grenade, donc jusqu'en 1492. Cette musique se jouait dans les palais, donc à Cordoue, à Grenade, à Séville, à Tolède, toutes ces villes. Mais après la chute de Grenade, les Arabes, donc berbères et juifs aussi, sont sortis de l'Andalousie et se sont installés dans tout le Maghreb. Et pour l'Algérie, chaque école a une tendance, une influence. Pour Alger, c'est l'influence de Cordoue. Pour l'école de Tlemcen, c'est l'influence de Grenade. Et pour l'école de Constantine, c'est l'influence de Séville.
Et est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui à vouloir transcrire cette musique à
l'écrit ? Oui, il y a eu une époque où j'étais contre la transcription, mais maintenant j'ai quand même changé d'avis parce que c'est vrai que la priorité reste l'oralité. Ça, c'est très très important. On ne pourra jamais écrire cette musique comme on l'interprète. On nous transmet en même temps l'âme de cette musique. Donc comment l'écrire ? On ne pourra jamais écrire l'âme de cette musique.
L'immense Beja Rahal qui est entrée dans ce monde de la musique arabo-andalouse en 95 avec un premier album où elle chante la nouba en l'occurrence particulièrement de Sana, qui est l'adaptation algéroise de cette musique arabo-andalouse, comme elle l'expliquait. Les noubas, c'est musique extrêmement longue, très littéraire, avec une capacité d'improvisation que vous allez pouvoir goûter dans quelques instants, et qui nécessite un apprentissage extrêmement long. Bejarahal est une figure de proue, d'une part parce qu'elle a enregistré deux séries de noubas dans différents modes et que c'est la première femme à l'avoir fait, mais aussi parce qu'elle a mis au point sa propre méthode d'enseignement, qu'elle joue aujourd'hui avec les orchestres philharmoniques du monde entier, collabore avec des guitaristes du flamenco, tentant à la fois d'être fidèle à cette tradition poétique du 9e siècle et en même temps de l'ouvrir et de le donner à entendre au plus grand nombre. Elle réfute le terme de diva et pourtant, elle le dit, la qualité de la musique qu'elle chante n'a rien à envier à l'opéra occidental. Bejarahal, la grande diva de la musique arabo-andalouse, qui est à la fois une interprète et aussi une femme qui transmet son savoir à l'image de tous ceux qui l'ont formée, qui a eu un autre mérite, qui était celui de mettre en valeur le rôle parfois oublié des poétesses de ce répertoire, un rôle qui est très important et qu'elle a pu chanter. Parmi les figures les plus importantes qu'elle a réussi à mettre en valeur, la poétesse Welada Bintou Al-Mustafki, elle expliquait toujours sur France Culture l'incroyable poésie de cette musique arabo-andalouse dont le sens fatalement à nous, chers Français, nous échappe.
Il y a par exemple Arbi'ia, c'est un poème où on parle du printemps, où on décrit vraiment fleur par fleur, plante par plante, pour les personnes qui écoutent, imagine ce tableau, donc ce grand jardin, cet Éden. J'avais chanté un texte de Welada, parce que Welada Bintou Al-Mustafki organisait des salons littéraires chez elle. C'était une princesse, grande poétesse, et un jour, Ibn Zaydoun était invité dans un de ses salons littéraires. C'est là où il est tombé amoureux d'elle. Elle lui a écrit un poème. J'avais chanté ce poème-là. Ensuite, j'ai chanté la réponse de Ibn Zaydoun à cette poésie. Et dans un troisième album, j'avais encore chanté
la réponse de
Welada. C'est vrai que c'est quand on lit, quand on chante le poème de Welada, on voit que c'est dit simplement. il n'y avait pas de non-dit dans son poème. Elle déclarait son amour pour Ibn Zaydoun sans tabou. Et ça, c'est quand même... Alors que maintenant, on voit qu'il y a un petit retour en arrière où on se fixe quelques limites par rapport à ça.
La voix de Sheikha Tetma que vous entendez ici, sa voix et sa kwitra qu'elle joue à l'image de Bejaral qu'on vient d'entendre, toutes les deux jouent de cet instrument en forme d'amande qui est à mi-chemin entre le luth, la guitare qui est typiquement algérien. On le retrouve nulle part dans aucun des autres pays où pourtant la tradition de la musique classique arabo-andalouse s'était transmise. On entendait Bejaral parler de cette poésie amoureuse écrite par des femmes du 9e siècle qui était sans tabou. Eh bien, Sheikha Tetma, elle aussi est une briseuse de tabous, celle qui est née tout début, même à la fin du 19e siècle, va être l'une des figures pionnières pour porter cette musique arabo-andalouse, ou plutôt sa tradition, son mélange avec la tradition populaire. Car Sheikha Tetma est née à Tlemcen, qui est l'une des régions où la tradition arabo-andalouse a une entité très forte. Tout ça se mélange évidemment, et il y a justement le haouzi, qui est ce style défini comme intermédiaire entre le classique et le populaire, où se mélangent les constantes de la musique classique, mais aussi des grands instruments et des attributs plutôt populaires. Sheikha Tetma va participé, comme la plupart de ses enfants, à une éducation coranique, une éducation musulmane, mais elle est prise en charge, alors qu'elle est toute jeune, par un barbier, musicien, poète, Moulay Ahmed Mederi, dit Serfako, qui va l'initier à la musique. Et sa mère, qui est issue d'une famille de mélomanes, c'est rare, va l'encourager. Elle va être en prise en charge par les frères Dib, qui sont des grands maîtres de cette tradition tlemcenienne de la musique andalouse. Et en 1916, elle se produit sur une fête foraine organisée place de la mairie à Tlemcen. C'est l'une des premières femmes à faire ça, c'est-à-dire à se produire en public à une époque où les femmes qui se produisent sur scène sont traitées de prostituées, de débauchées. Et que la plupart se privaient de mariage de famille pour pouvoir chanter. C'est sa rencontre avec Braham Ed Baraï, un musicien de confession juive, car ils sont très nombreux dans cette Algérie du début du siècle à être des grands interprètes de la musique andalouse. Elle va enregistrer ses premiers disques. Celui que vous entendez ici, Ana El Grib, fait partie de ses plus grands succès. Elle va être obligée, à un moment donné d'ailleurs, de quitter l'Algérie parce qu'elle elle est évidemment pourchassée par des conservateurs qui refusent la place qu'elle prend dans la scène musicale. Elle va être considérée précisément comme l'une des pionnières aussi de la tentative d'harmonisation de la musique andalouse avec un orchestre symphonique européen. Shira Tetma, qui est un grand modèle pour toutes celles qui viendront après elle et qui chante à Alger quand elle monte à la capitale avec des figures de cette chanson qui sont, et c'est ça qui est intéressant, des figures juives de cette scène arabo-andalouse, parmi les figures les plus belles et les plus importantes de cette période où évidemment l'Algérie est constituée de toute une foule de communautés qui évoluent ensemble. Il y a Reinette Loranaise qui va devenir l'une des plus grandes stars de la chanson algérienne dans les années 50, une chanson algérienne qu'elle chante dans un arabe littéraire extrêmement châtié, un apprentissage long. Une reine de la scène, tout cela en dépit d'un lourd handicap.
Ah, je suis né dans le département d'Oran, ça s'appelle Tiarette. J'ai perdu la vie à l'âge de 2 ans. Et après, forcément, maman a tout fait pour moi, pour essayer de remédier à ce mal, mais malheureusement le docteur lui a dit c'était fini. Alors, il a dit la meilleure solution, c'est de l'envoyer à l'école des aveugles. Et c'est ce qui m'a fait faire un très grand pas dans mon métier. Parce que si je ne savais pas lire et écrire le braille, je n'aurais jamais pu apprendre ce métier aussi profondément que je l'ai appris. Parce que ces chansons sont très longues. Et il faut les apprendre mot à mot.
Thank you.
Renate Louranaise, qui chante sur les scènes algéroises avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, aux côtés d'autres chanteuses juives. Il y aura Alice Fitoussi, plus tard Lynn Monti, qui croise Shira Tetma, qu'on a entendu ici, sur ces scènes. Renate Louranaise figure d'une algérianité croisée, de cette algérianité très diverse qui existe avant-guerre, qui a été formée par un grand maître de la musique arabo-andalouse, Saoud Medioni, dit Louranais, qui sera ensuite déporté depuis la France où il s'était installé pendant la guerre. Renate Louranaise, qui apprend donc cette musique arabo-andalouse dans un arabe littéraire qui n'est même pas celui qu'on parle en Algérie, je le rappelle, c'est très important, qu'elle transcrit en braille, qui devient l'une de ses très grandes voix du pays et qui pourtant, évidemment, à l'instar d'une grande partie de la communauté juive, est mal acceptée par la révolution algérienne et donc elle choisit en 62 de s'installer à Paris, à l'instar de beaucoup de ses camarades d'origine juive. Elle va évidemment chanter pour la communauté algérienne en France, grande tournée à l'Olympia, mais elle reste, dirait-elle, un arbre brisé par cet exil qui l'a beaucoup fait souffrir, qu'elle vivra aux côtés de son mari, le joueur de derbouka Georges Layani. Elle est aujourd'hui enterrée au cimetière de Pantin. À peu près à la même époque que Renate Louranaise, née une autre figure, celle de la diva algérienne par excellence, elle s'appelle Fadela Diria, Fadela Madani de son vrai nom, qui est née du côté de Notre-Dame d'Afrique à Alger et qui va devenir l'une des plus grandes cantatrices de l'histoire du pays. على الضياء عقلي معاه يما طير عشي على العصافر زينون سرا Fadela Diria, qui est née de parents assez conservateurs en Kabylie, mais dès son plus jeune âge, elle imite à la radio et puis par l'oralité les grandes divas qu'on a déjà citées, et notamment Myriam Fekai, dont on n'a pas entendu la voix, mais qui fait partie justement de cette première génération de femmes qui se produisent sur les scènes algéroises et à la radio dans les années 30. Fadela Diria, qui commence à animer des soirées de Ramadan en arabe et en kabyle, et qui est découverte lors d'une émission de Radio Alger. Elle va devenir assez vite la grande star de la chanson algérienne, même si entre-temps, elle a fait un mariage très précoce, trop précoce, qui n'a pas duré. Elle s'enfuit, elle quitte le foyer, et en fait, c'est à Paris, c'est là que c'est intéressant, qu'elle réussit à vraiment démarrer sa carrière dans un cabaret fréquenté par des maghrébins qui s'appelle tout simplement El Jazair. Elle chante en asri, qui est un genre de mélodie assez en vogue à l'époque. Et puis quand elle revient au pays, en Algérie, elle va très vite connaître le succès avec une chanson arabo-andalouse. On est vraiment sur cette tradition de femmes qui s'imposent, qui aussi chantent parce que c'est une voie possible quand elles ont tourné le dos à leur famille, par exemple, ou à des mariages qu'elles n'avaient pas choisis et qui vont être portées par la radio, qui commence vraiment à être un média fort en Algérie. Elle va devenir la grande cantatrice, chantant à la fois en arabe, en kabyle. Elle se produira même à l'Opéra de Paris avant de mourir. Elle sera évidemment l'une de celles qui seront les plus engagées dans la lutte pour l'indépendance avec sa sœur. Elle va collecter des fonds. Elle sera même arrêtée pendant la lutte pour l'indépendance. Elle fondera son propre ensemble musical. Elle était une grande amie de Renette Loranès, dont les destins pour leurs destins pourtant vont se séparer à ce moment crucial de l'indépendance. Mais dans cet Alger des années 50 où les femmes commencent à s'imposer, il y a justement une figure qui surgit. Cette figure, on en a déjà entendu la voix, c'est l'incroyable Cheikha Remiti. Cheikha Remiti, dont l'histoire est une histoire de courage, d'indépendance, d'amour de la liberté presque incomparable à aucun autre. C'est sans doute parce qu'elle n'avait absolument rien à perdre que Cheikha Remiti a brisé tous les tabous et qu'elle a établi l'une des carrières les plus impensables et du coup les plus fertiles, puisqu'elle est née en Algérie, à Tessala, dans une grande tribu berbère, mais qu'elle était orpheline. Elle a donc passé une enfance assez misérable. Quand elle est adolescente, elle travaille comme femme de ménage chez les colons. Une enfance, une adolescence sans doute extrêmement humiliante. Et puis, lorsqu'elle a 20 ans, elle entend une troupe de nomades qui chantent. Elle se joint à eux. Elle va devenir l'une de ces musiciennes itinérantes qui chantent dans les mariages, qui chantent pour les grandes célébrations. Elle chante, et elle le dit évidemment toujours, avec ses tripes. هذيك العروسه
غني بالخبز غني بالغبينه اللي نغبنت ما نغنيش انا.
Quand je chante avec mon âme, mon cœur et mon corps. J'utilise tout ce qui me passe par la tête pour faire plaisir aux gens. Quand je suis sur scène et que je chante par exemple la chanson Noir, Noir, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de quelque chose que je peux offrir. Donc moi, c'est ma vie, c'est mon cœur, c'est mon âme qui chante. C'est mon corps, donc tout est en osmose.
Courage, travail, courage. Voilà, tu as appris le courage, mais quand tu es
petite. La base de ma personnalité, la base de ma profession, c'est le courage. Donc le courage, et surtout quand je suis sur scène, quand je suis en studio, je ne veux être perturbé par personne. Je veux donner tout mon être du fond de moi-même pour encourager les gens qui me regardent, les spectateurs. Et c'est pour cette raison que j'ai un verbe qui est cru et je dis tout ce que je pense. Donc c'est une question de trip et je ne veux que personne ne me commande.
I'm gonna go. بالجبل اللقى في النوار
أنا وغزالي هلالا أنا وغزالي في الجبل اللقى في النوار أنا وغزالي هلالا أنا وغزالي في الجبل اللقى في النوار
يا حبيبي شعنيكي مشعر للقار ولالا وأنا وغزالي في الجبل اللقى في النوار أنا وغزالي هلالا أنا وغزالي في الجبل اللقى في النوار
Cheikh Halimiti, dont le nom, les origines sont évidemment toujours un peu légendaires, son surnom, Halimiti, viendrait de sa capacité à redemander une tournée dans les cantinettes, ces buvettes qui étaient les seuls endroits qui servaient de l'alcool dans l'Algérie coloniale. Cheikh Halimiti qui s'impose donc tout d'abord avec une troupe itinérante, puis dans les cabarets et qui commence à inventer le raï. Comment est-ce qu'elle invente le raï? Justement en jouant sur toute une série de doubles sens qui nous échappent à nous évidemment dans ce répertoire où elle va commencer dès les années 50 à imposer des thématiques comme celle par exemple de la virginité qui va parler évidemment des difficultés des femmes dans son pays. Elle est à la fois une femme qui s'impose musicalement sur scène entourée d'hommes et qui passe sa vie à justement se battre pour pouvoir exister. Elle qui a été calomniée, rejetée, persécutée justement dans l'Algérie poste, dans l'Algérie indépendante, elle déplaît évidemment aux conservateurs. Elle va s'installer en France en 79 et son répertoire, l'immense richesse de son répertoire audacieux qui célèbre l'amour, l'amitié, les belles soirées, la convivialité, la beauté du vin, le plaisir de partager ensemble. Tout ce répertoire-là va profondément marquer les générations suivantes, qu'elles aient grandi en Algérie ou dans les communautés d'immigrés algériens. Le rôle de la femme et à jamais modifié. Cheikh Halimiti, qui jusqu'à la fin de sa vie le disait, elle veut que les femmes se défendent.
Effectivement, j'ai défendu et je défends et je défendrai toujours la femme parce que, vu ma situation personnelle, vu mon cas où j'ai vécu orpheline, j'ai été méprisée, j'ai pas pu aller à l'école, donc je me sens comme un porte-parole de la femme et des femmes. Et surtout, je compare la femme à l'arbre. L'arbre, il a ses racines, mais il a aussi ses feuilles. La femme, la femme aussi, elle doit avoir ses hommes, elle doit avoir aussi ses frères. Et donc, si elle n'a pas cette famille qui la défend, elle peut aussi s'adresser à un avocat pour pouvoir la défendre et défendre ses droits. Donc, je le dis de nouveau et avec insistance que je défendrai toujours les femmes qui sont méprisées. Quand on dit « mahgoura », c'est le mépris. Et je veux que les femmes retrouvent aussi leurs droits, mais pas des droits en croisant les bras, il faut qu'elles se battent aussi.
Attention.
version pas si emblématique de ce qu'elle a fait, mais Matafresh de Sheikha Jenia. Jenia, ça veut dire la diablesse, qui est dans la droite ligne de ce que Sheikha Remiti ouvre comme porte, qu'on avait envie de vous donner à entendre dans une version qui raconte l'une des grandes parties, l'un de ces grands courants qui donne naissance au raï, car à l'origine même de cette forme musicale, eh bien, on trouve des femmes. Ce sont les Médahat, ces groupes de femmes qui chantent des louanges à Dieu, au prophète Mahomet. Et c'est exactement ce que font des femmes comme Sheikha Remiti ou Sheikha Jenia, c'est-à-dire d'une certaine manière tordre cette forme musicale, évoquer certes Dieu et toujours les bienfaits de la vie, mais dans des compositions avec des allusions voilées à d'autres choses. Sheikha Jenia, qui elle devient une des grandes voix du raï après un mariage forcé à 16 ans, qui l'oblige à fuir le domicile conjugal. Elle va faire son premier enregistrement dans les années 70. Et c'est parmi cette génération de gens qui vont relancer le raï dans les années 80. Elle résume tout ce que j'ai chanté, tout ce dans quoi j'ai baigné petit, dira Khaled, celui qui popularisera le raï dans le monde entier, qui aura largement emprunté au répertoire à la fois de Sheikha Jenia et de Sheikha Remiti, parfois même sans les créditer, car évidemment c'est grâce à les répertoires chantés par ces femmes dans les années des années 50 aux années 70, que le grand renouveau, ou plutôt la grande modernisation, le boom du raï va avoir lieu dans les années 80, avec toute une série de garçons plutôt, Cheb Khaled, Cheb Mami, que vous connaissez bien. On connaît moins évidemment la figure d'une femme qui est très clairement dans cette droite ligne. Elle s'appelle Sheba Fadela. On est passé des Sheikha au Sheba, qui va être l'une des premières femmes à lutter contre l'interdiction des femmes chanteuses dans les salles de spectacle en Algérie, qui va véritablement redynamiser clairement ce raï, qui va se mélanger avec des variétés rock, libanaises. Elle va introduire, à l'image d'autres, le synthétiseur, les cuivres, les accordéons, les guitares électriques dans le raï. Écoutez ce que ça donne, vous connaissez nécessairement bien mieux ce type de son. Sheba Fadela, qui à l'image de toute une série de chanteurs et de chanteuses de raï, vont être vraiment beaucoup embêtée de manière assez violente pendant les fameuses années de plomb. Elle sera entourée de chanteurs qui seront assassinés. Elle finira par tenter l'expérience européenne. Elle s'installera en France avant de faire évidemment des allers-retours. Alors on ne pourra pas parler dans cette émission, car elles sont à la fois sublimes, majestueuses et trop importantes en elles-mêmes, des chanteuses kabyles qui pourtant sont extrêmement présentes dans les années 80-90 et encore aujourd'hui. Elles auront leur propre série à elle. Parmi les figures intéressantes qui surgissent à la fois en France et en Algérie au tournant des années 90, 2000 et 2010, il y a évidemment la figure de Souad Massi. On avait envie d'en parler, car même si elle est aujourd'hui plutôt installée en Europe, elle raconte très bien à la fois la modernisation que permettent, qu'imaginent une série de divas algériennes, et puis cette nécessité justement de vivre entre deux pays. Elle est née en 72 à Alger, Souad Massi. dans une famille très mélomane où elle va découvrir le shabi, donc cette forme populaire algéroise, et le rock américain, la folk, mais aussi le fado, et elle a toujours les bases de la musique arabo-andalouse. Dans les années 90, sa famille est vraiment touchée aussi par l'ambiance de plomb, et c'est dans ce contexte-là qu'elle se met à composer, à écrire, à créer finalement cette forme musicale qui est la sienne, un mélange très savant, très doux, entre le shabi, le rock et la folk. Swad Massi, qui ensuite s'installe en France où son premier album Rawi, le conteur, sorti en 2001, rencontre un succès phénoménal. On a bien vite fait d'elle l'un des emblèmes de cette génération de femmes algériennes qui souffrent sous cette ambiance de plomb. Elle a toujours refusé, elle justement, de devenir une porte-parole, même si la musique, racontait-elle sur France Culture, l'a effectivement sauvée.
Je voudrais pas être un porte-parole, j'ai pas le bagage pour. Je préfère qu'il y ait d'autres artistes comme Idir, par exemple, qui est vraiment un artiste intellectuel et tout. Mais on n'a pas le choix. Quand on a peur, quand on, à un moment donné, on banalise la mort et je trouve ça anormal. Et le fait, pour moi, de chanter, c'était un constat et aussi un moyen de me réconforter, de parler des choses qui me faisaient mal.
Mais il y a eu un moment où vous avez eu peur là-bas quand même, quand vous avez décidé de partir.
C'est normal parce qu'il y a eu plein d'artistes qui ont été tués. On ne pouvait pas nous produire. Mais à un moment donné, j'allais arrêter quand même.
Swad Massi, cette réinvention qui va évidemment à la fois du côté de la folk, qui renoue avec la tradition andalouse, qui va faire de Swad Massi l'un des personnages les plus intéressants, l'une des plus belles réinventrices de cette musique algérienne, ou algérienne qui évidemment vit entre plusieurs pays, plusieurs communautés.
en Algérie. C'est une figure de femme qui va s'imposer. Elle est née en 88 et ce n'est pas un hasard que ce soit une femme qui produise la chanson qui va devenir la chanson qui va porter un très grand mouvement, le mouvement du Hirak. Elle va devenir l'icône de la révolution dite du sourire avec sa chanson Allô le système. C'est sur Air Savoie qu'on va se quitter, celle de Raja Meziane. Raja Meziane, l'une des figures de cette chanson, de ce rap algérien. Évidemment, ce n'était qu'une série d'esquisses. On vous invite, si vous êtes évidemment intéressé par toutes ces questions, à réécouter les formidables documentaires d'Ager Ben Boubaker sur notre antenne, notamment sa merveilleuse histoire du rail, et à lire son nouveau livre Barbès Blues, qui raconte les cabarets franco-algérois de Barbès, où l'on croise aussi bien Aznavour que Warda. Cette émission a été réalisée par Louise André avec Marie-Claire Oumabadi. L'attachée de production de la série musicale, c'est Laura Dutèche-Pérez. À la semaine prochaine.